L'ère de jeu revient en ce dimanche matin avec, eh bien écoutez, figurez-vous, un Florian qui s'est peut-être fait assassiner, on n'en sait rien, c'est la thématique de la journée et de l'émission ce jour, puisque je suis ravi d'être en compagnie de Claire, ma collègue de crime. Bonjour Claire.
Mais bonjour mon cher Stan, comment allez-vous?
Fort bien en ce dimanche matin, et surtout nous avons aussi le plaisir d'avoir un invité un peu particulier aujourd'hui, puisque c'est Marc Woltenhauer qui nous tient compagnie jusqu'à midi. Bonjour Marc.
Bonjour.
Bonjour Marc, merci bonjour. D'être avec nous pour présenter un petit peu votre travail et parler de la Suède. Bienvenue chers auditeurs dans cette nouvelle édition de l'ère de jeu. Vous allez pouvoir jouer avec nous. J'espère que vous allez prendre du plaisir et on va peut-être vous donner l'envie de lire le dernier roman de Marc Woltenhauer qui a été écrit à quatre mains avec Nicolas Feuth. On va bien sûr en parler. Auteur de romans policiers, né d'un papa allemand et d'une maman suédoise, on va donc évoquer le pays qui tient au cœur de notre invité. On va faire connaissance aussi avec cet inspecteur Auer. Et puis, on va bien sûr revenir sur le dernier polar qui s'intitule Ultimatum. Une intrigue qui va nous emmener du fort de Dei au palais fédéral qui est pris pour cible par des terroristes. Alors Marc, on va bien sûr évoquer la Suède parce que c'est un pays qui vous tient à cœur, comme je l'ai dit.
Oui, tout à fait. Je suis à moitié suédois, de par ma mère, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Puis la Suède, j'y vais depuis que je suis né, en fait, principalement pour mes vacances. Mais j'ai aussi eu l'occasion d'y passer une année entre 2018 et 2019.
Est-ce que vous parlez le suédois?
Oui, c'est ma langue maternelle.
Ah, ouais. Alors moi j'aimerais bien que vous nous dites par exemple, bonjour chers auditeurs, je suis ravie d'être dans l'air de jeu et de parler de la Suède et de mon dernier roman.
Hej till er alla. Jag är glad att vara med på l'air du jeu på RTN nu på morgonen. Och jag hoppas ni kommer ha det trevligt tillsammans med oss.
Vous avez compris quelque chose, Stan?
Complètement.
Moi aussi. C'est très particulier. C'est un mélange de quoi, le suédois? On a une petite idée des origines de cette langue?
C'est une langue nordique, hein, donc issue, je dirais plutôt de... si on remonte au temps des vikings, c'est une langue qui est assez proche du norvégien, du danois... qui s'est éloigné un peu de l'islandais, l'islandais est peut-être encore plus proche de la période viking, on va dire. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est que dans le suédois, il y a aussi une grosse influence de la langue française, parce que la royauté suédoise était française, il me semble, en tout cas au XVIe et au XVIIe siècle, donc il y a beaucoup de mots français dans la langue suédoise.
Envie de prendre l'air, jusqu'à midi, c'est l'air de jeu.
Marc Woltenhauer, qu'est-ce qui vous passionne le plus dans l'écriture de romans policiers?
L'écriture en tant que telle, forcément, c'est un moment de bonheur. Il y a un autre aspect que je trouve vraiment extrêmement passionnant, c'est toute la période de réflexion, d'imaginer un scénario, et lié à ça aussi, le fait de faire énormément de recherches et de rencontrer dans ce cadre-là des gens très passionnants dans différents domaines qui m'intéressent. Alors, bien sûr, je rencontre souvent des policiers, mais parfois aussi des avocats, des procureurs, des médecins, un vétérinaire. Je trouve que faire de la recherche sur Internet, lire, c'est une chose. Aller sur des lieux, c'est passionnant. Mais vraiment rencontrer des gens qui vont parler de leur métier, à qui je peux échanger sur mes idées de scénario, je trouve que c'est vraiment un des aspects les plus fascinants.
Il y a un personnage qui est récurrent dans vos livres, c'est Andreas Auer. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet inspecteur de police?
Alors, Andreas Auer, il n'a pas atterri très loin de moi, en fait, si on peut dire, puisque Auer est la fin de mon nom de famille, et puis Andreas, c'est mon deuxième prénom. C'est une idée spontanée qui m'est venue quand j'ai imaginé ce personnage. Ce qui était assez marrant, quand j'ai commencé à imaginer mon premier livre, Le Dragon du Muvran, j'avais d'abord, en fait, le lieu, qui était le village de Grillon. J'avais assez rapidement une ébauche d'intrigue. Et puis je me suis dit, mais en fait, maintenant, il me faut quand même quelqu'un pour enquêter. Sinon, c'est pas un roman policier, ça marche pas. Et j'ai commencé à réfléchir quels étaient les modèles que j'avais en tête de par mes lectures, qui sont notamment scandinaves. Je lis d'ailleurs beaucoup de romans policiers suédois en suédois. Il y a un personnage que j'aime beaucoup, qui est l'inspecteur Wallander, de Henning Mankell. Après, j'ai aussi beaucoup lu Nesbø, qui est norvégien, avec Harry Hall. Et on retrouve quand même souvent ce type de flic, un peu cabossé par la vie, qui a un peu de problème avec la bouteille, qui ont des conflits avec leur hiérarchie, qui ont du mal à garder une relation sentimentale stable, etc. Donc je me dis, il ne faut pas que je fasse ça. De notre côté, je disais aussi Camille Lekberg, où on a une journaliste qui est mariée à un policier, et puis a une vie de famille, etc. Je me dis, c'est pas mon truc non plus. Et tout d'un coup, je me dis, mais en fait, pourquoi pas mettre en scène, dans ce polar, un couple homosexuel, Andrea Sauer, qui est inspecteur de police, et Michael Achard, qui est journaliste. Puisque c'est ma réalité, donc je me dis, bah, c'est aussi plus simple d'en parler, puisque c'est proche de ce que je vis. Et surtout, dans la littérature policière, il y avait relativement peu de livres où les héros récurrents étaient un couple homosexuel.
On va passer à notre premier jeu.
L'ère de jeu, le défi.
Le défi photo, c'est jusqu'à midi moins le quart que vous allez nous les envoyer, vos photos, par WhatsApp. Il faut le thème. Quel est le thème choisi par Marc Boltenhauer?
Alors, vu que je suis constamment à la recherche d'idées, notamment maintenant, parce que je suis en train de réfléchir à un prochain roman policier, je me disais que les auditeurs ou auditrices pourraient nous envoyer des photos de lieux qu'ils imagineraient être de sympathiques scènes de crime. Peut-être que parmi celles-là, il y en a une ou l'autre qui pourrait m'inspirer.
Si vous avez des lieux de crime à nous suggérer dans votre environnement proche, que ce soit bah, peut-être votre intérieur ou des lieux publics, eh bien, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos par WhatsApp au 079 809 20 20. On se charge de faire une collection afin que Marc, en fin d'émission, puisse choisir peut-être celle qui va remporter un joli cadeau, Claire.
Oui, tout à fait, une carte cadeau lundi.
On se réjouit de recevoir vos images. On vous rappelle le thème, un crime, un lieu de crime idéal. Selon vous, vous pouvez nous envoyer ça sur WhatsApp au 079 809 20 20.
10h, midi, envie de prendre l'air, l'air de jeu.
Puisque Claire et moi-même avons le plaisir d'avoir en notre compagnie Marc Boltenhauer pour les deux prochaines heures, chère Claire.
Oui, et on va soumettre notre invité au petit questionnaire façon Proust pour un petit peu plus vous découvrir, Marc. Alors, vous avez choisi des chiffres. Voici les questions qui s'y rapportent. La première est la suivante. Quelle est la qualité que vous préférez chez une personne ?
La bienveillance. Je pense que c'est une qualité pour moi qui est essentielle, qui est liée au respect de l'autre, à la gentillesse, mais c'est plus que de la gentillesse, c'est vraiment un état d'esprit positif par rapport à l'autre, en fait.
Est-ce qu'on peut être un meurtrier bienveillant dans vos livres ?
Alors, est-ce que j'ai déjà rencontré un meurtrier bienveillant dans un livre ? Je sais pas, en tout cas, peut-être des meurtriers qui pensent, de par leurs actes, faire quelque chose de bien. Après, la méthode choisie n'est pas forcément adéquate.
Ouais, ça, c'est possible.
Quelle est votre occupation préférée ?
Si je dis l'écriture, c'est bête.
Non, mais en dehors de l'écriture, peut-être, pour non, alors, un petit peu changer, ouais. Pour vous ressourcer, par exemple.
J'aime beaucoup voyager. Voyager, j'aime faire de la randonnée, j'aime la nature. Avec mon compagnon, on a eu l'occasion de faire pas mal de voyages, dont un tour du monde, dont un tour d'Europe en camping-car. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, qui nous plaît beaucoup.
Quel est votre mot préféré ? Est-ce que vous en avez un ?
Mon mot préféré ?
Bienveillance.
non, pas. Il y a rien qui me vient comme ça spontanément. Si j'ai un mot préféré, moi j'ai un peu un blanc là.
Alors, est-ce qu'il y a une personne vivante que vous admirez le plus ? Une personnalité par exemple ?
Personnalité que j'admire, vivante. Non, en fait, ceux qui me viennent à l'esprit sont plutôt les personnes mortes, mais...
Alors qui est-ce que vous avez admiré ?
Par exemple, on a parlé avant rapidement, Henning Mankell, un peu comme modèle d'écriture, mais qui a écrit des romans policiers, qui a aussi écrit d'autres livres. Je trouve aussi avec une humanité, une profondeur, et ça, je trouve, c'est vraiment intéressant. Pour moi, le roman policier, bien sûr, c'est de la littérature de loisir, quelque part, mais si on peut y ajouter une touche de profondeur, c'est toujours intéressant, et c'est moi aussi ce qui m'intéresse.
10h, midi, envie de prendre l'air, l'air de jeu.
En compagnie de Marc Boltenhauer, auteur de Polar et sous la direction de Claire.
Eh oui, Marc Boltenhauer nous fait l'amitié d'être avec nous ce matin. Donc, comme on l'a dit, hein, la Suède, c'est un pays qui l'apprécie, puisqu'il a des origines suédoises. Alors, l'histoire de votre roman L'Aigle de Sang se déroule à Gotland. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette île ? D'ailleurs, on a de très jolies photos hein, qui sont diffusées sur les écrans pour les personnes qui nous regardent par notre site internet. Mais vous découvrirez toutes ces photos cet après-midi sur notre site.
Alors, l'île de Gotland, c'est la plus grande île dans la mer Baltique. Elle est au sud-est de Stockholm, environ 3 heures de bateau ou une demi-heure d'avion de la capitale. Et en face, on a les pays baltes, notamment l'Estonie. D'ailleurs, on a pas mal entendu parler de Gotland ces derniers temps dans l'actualité, puisque c'est un lieu stratégique militaire assez convoité, notamment par la Russie. Régulièrement, il y a des histoires d'avions qui s'approchent d'un peu trop près. Je me rappelle de ma jeunesse, il y avait des articles où il y avait des photos, où on voyait des sous-marins russes qui se promenaient près de la côte, etc. Cette île avait été complètement démilitarisée il y a une vingtaine d'années, alors qu'avant, il y avait même des zones sur l'île où moi, qui avais un passeport allemand, ne pouvais pas aller. C'était que pour les Suédois, où il y avait des zones stratégiques militaires. Tout était démilitarisé depuis 3-4 ans. Ils ont remis l'armée suédoise sur Gotland parce que c'est un lieu vraiment stratégique dans cette situation militaire un peu compliquée actuelle.
Alors, personnellement, vous, Mark Woltenhammer, qu'est-ce qui vous plaît dans cette île de Gotland ?
Je ne suis pas très objectif, finalement, parce que c'est une île de cœur. J'ai la chance que mes grands-parents y ont acheté une ancienne ferme dans les années 60, qui a été reprise par mes parents et qui est toujours notre maison de famille. Et j'y ai passé tous mes étés depuis que je suis né. C'est un lieu qui est assez particulier au niveau de la météo, au niveau de sa configuration, des rochers, des petits villages. C'est vraiment un lieu très très agréable, très intéressant historiquement aussi. Il y a la capitale de l'île, Visby, qui est inscrite à l'UNESCO parce qu'elle est entourée de remparts médiévaux, une ville de la période hanséatique. Donc c'est vraiment un lieu très intéressant à découvrir. C'est assez grand. Elle fait 176 km de long, de la pointe sud à la pointe nord. Donc on peut y passer quelques jours.
Il y a de quoi faire, justement. Est-ce qu'il y a des aspects culturels que vous continuez de faire chez vous à Grillon ?
Alors c'est vrai qu'il y a des fêtes suédoises assez traditionnelles. Il y en a une qui me plaît beaucoup, qui est au mois d'août, qui est la fête des écrevisses.
Ça se dit comment en suédois ?
Kräftskiva. Kräfta, en kräfta, c'est l'écrevisse en suédois. On décore la table, il y a des serviettes, des cotillons, etc. On mange des écrevisses, si possible, des lacs suédois, bien qu'il y en a de moins en moins. Ouais, on voit une photo. Ce qui est essentiel aussi, c'est l'aquavit pour accompagner les écrevisses.
Oui, justement, sur la photo, on voit, c'est marqué Ska. Je ne sais pas comment on prononce.
Ce qu'on est, c'est une région suédoise, c'est la région du sud de la Suède, et où on produit de l'aquavit.
Et c'est quoi l'aquavit ?
C'est un alcool, on va dire, qui se rapproche un peu de la vodka, qui est aromatisé au cumin. Donc, il y a un arôme assez particulier. Et puis, en Suède, on en boit régulièrement à cette fête des écrevisses, mais aussi quand on mange, par exemple, le poisson cru en sauce, etc. Puis, durant cette fête des écrevisses, on chante aussi, parce qu'il y a plein de chansons à boire. Donc, en général, on s'amuse pas mal. Dans les autres traditions, moi, qui me tiennent beaucoup à cœur, c'est les traditions de Noël, où j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance, quand j'allais voir mes grands-parents. C'est une fête de lumière dans la nuit. Parce que l'hiver, il fait vraiment très sombre. Je me rappelle de Noël où c'était très enneigé, où on partait de la maison pour aller au culte de minuit sur des luges. On voyait les gens à ski de fond. Puis, notamment, ce qu'on boit à cette occasion-là, c'est du vin chaud suédois, le glögg,
oui,
mais qui est très différent de celui qu'on boit ici en Suisse, qui est plutôt aromatisé avec des oranges, etc. En Suède, on est plutôt sur le gingembre, la cannelle. On y rajoute quelques raisins secs, des amandes. Et puis, si on veut corser le tout, on met même un petit peu de gin ou de vodka dedans pour que ce soit bien costaud.
D'ailleurs, vous en faites part dans l'Ultimatum et puis dans l'Aigle de Sang également de ce breuvage.
L'air de jeu.
L'air de jeu avec Claire comme grande Manitou de cette émission et son invité du jour, Mark Woltenhammer, auteur à succès de romans policiers.
Et nous avons Émilie pour jouer avec nous. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Mais bien.
J'ai cru savoir que vous étiez sur la route.
Oui, mais je viens de m'arrêter.
D'accord. Vous avez quelqu'un avec vous pour vous aider ?
Oui, exactement, il y a mon chéri qui est là.
Bonjour.
Bonjour, quel est votre prénom ?
Thomas.
Thomas. Thomas, Émilie, soyez les bienvenus dans l'ère de jeu, vous allez jouer avec nous. Est-ce que vous connaissez la Suède ? Vous n'êtes jamais allé en Suède ?
Si, on est allé, ouais.
Voilà, c'est un petit passage, oui.
Et qu'est-ce qui vous a séduit dans ce pays ?
Oh, les petits lacs et puis les petites maisons rouges, enfin, c'est très joli.
C'est un peu typique aussi de Gotland, ces petites maisons ?
Non, alors c'est vraiment, je dirais, là, sur le côté du continent suédois. Sur l'île de Gotland, on est plutôt avec des maisons en pierre, avec des socles souvent peints en bleu, qu'on appelle le bleu de Gotland.
Ah, c'est joli ça ! Et puis, les romans policiers, est-ce que vous aimez lire ça, tous les deux ?
Pas tellement.
Bah, j'en lis pas tellement, non.
Ah, bah alors, moi, je vous invite à lire le dernier Mark Woltenhauer qu'il a écrit avec Nicolas Feuss, qui s'appelle Ultimatum. Franchement, il est génial. Bon, c'est pas tout ça, les enfants, mais on va jouer. Et puis, le bon que vous allez remporter, on l'espère, si vous nous donnez trois bonnes réponses, c'est pour aller manger une pizza au XL Bowling de la Chaux-de-Fonds et puis jouer au bowling, valeur 120 francs.
L'ère de jeu, le blind test.
J'ai trois extraits de chansons. Il faudra me donner trois bonnes réponses. Est-ce que vous êtes prêts ?
Oui.
Quel est le titre de cette chanson sortie en 1976 ?
De Abba.
Ça m'a l'air pas mal, ça, Claire. Mais ça m'a l'air pas mal.
C'est... Qu'est-ce qu'il répond, notre invité ?
Alors, bien sûr, c'est Abba, Dancing Queen, oui.
Alors, cette chanson a été un énorme succès dans les années 70 et elle continue d'être appréciée encore aujourd'hui. Elle est souvent considérée comme un véritable hymne suédois et bien sûr, elle est connue dans le monde entier. Un point. À quel groupe de hard rock suédois doit-on cette chanson ?
Ça, c'est dur.
Superstitious, 1988. Le chanteur, c'est Joey Tempest. Et ils avaient connu le succès avec un autre titre beaucoup plus connu.
Ce serait In Flames.
Marc ?
Je dois donner la réponse.
Oui, vous pouvez.
Il me semble que c'est Europe. Dont on
exactement,
parle.
C'était le groupe Europe. Bon. Joey Tempest.
The Final Countdown.
Voilà, c'était la plus connue. Ah, le beau Joey Tempest. Oh là là.
Qu'est-ce vous étiez amoureuse, Claire ?
Ah, je le trouvais craquant. Ah ouais, ah ouais. Avec ses longs cheveux blonds bouclés. Bon, on passe au dernier, mais vous l'avez compris, hein, c'est pas gagné.
Oui.
Mais allez, pour le fun. Sur la musique de David Guetta, la chanteuse suédoise Zara Larsson a interprété en 2016 l'hymne officiel d'un grand événement sportif. C'était lequel ? Mais voici la chanson donc officielle de ce rendez-vous sportif. Alors, le titre, c'était « This One's For You ».
Ouais.
2016, ça vous rappelle quelque chose ? Tiens, c'est marrant parce que les Stan, ça, hein. Et les deux, Marc, ils ont aussi les yeux...
Ah, j'ai les yeux levés au ciel, je ne suis pas inspiré du tout. Ouais.
Et Marc ?
Non, alors je pourrais que essayer de deviner quelque chose, mais c'est... J'ai...
Ouais, c'est
alors, dites-nous.
C'est hyper beau.
Attends, attends, on a peut-être une réponse du côté d'Émilie et Thomas. Vous avez une réponse ?
Le Super Bowl.
Une Coupe du Monde.
Vous êtes allé chercher trop loin. C'était l'Eurofoot en 2016 qui s'était déroulé en France.
On n'est pas très foot alors.
Ah voilà, alors tout s'explique. Et puis la finale avait vu s'opposer hein, le Portugal face à la France. Et qui a remporté ce match ?
C'était le Portugal, non ?
Vous dites quoi, Marc ?
Oui, c'est le Portugal.
Vous dites quoi ?
Je vais dire le Portugal sous la pression populaire.
Oui, effectivement, c'est le Portugal qui avait donc battu la France 1-0 après prolongation. Ben, on a eu le plaisir de vous avoir avec nous, Émilie et Thomas. On vous souhaite une bonne suite de dimanche. Et puis, une prochaine fois.
Ben oui,
avec plaisir.
Merci d'avoir joué. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Merci à vous.
10h, midi, envie de prendre l'air de jeu.
L'aire de jeu qui vous fait voyager entre la Suisse, la Suède, grâce à notre invité du jour, Marc Woltenhauer, qui vous a fixé un défi, on vous le rappelle, un défi photo. Si vous avez un lieu idéal pour un crime dans votre entourage que vous souhaiteriez partager avec nous, eh bien vous pouvez le faire en tout temps sur notre WhatsApp au 079 809 20 20 pour que dans l'heure qui suit, nous trouvions une gagnante ou un gagnant qui sera choisi par notre invité du jour, Marc Woltenhauer, sous la direction, bien entendu, de votre Claire Adorée.
Vous pouvez faire des suggestions à nos auditeurs s'il manque un petit peu d'imagination. Qu'est-ce que vous verriez comme lieu, vous, par exemple, Stan ?
Ben, vous l'avez soufflé juste avant la pub, je le trouve qu'il est génial, le studio de RTM. Je trouve que ce serait cool.
Mais je ne sais pas si des gens vont venir faire des photos de notre studio, mais sinon, vous avez d'autres endroits ?
Le Creux du Vent, ça reste quand même pour moi un grand classique d'un endroit qui pourrait être...
Il a déjà été utilisé par Nicolas Feutz.
C'est ce que je voulais dire, Nicolas Feutz, ça a déjà pas mal utilisé.
Raison pour laquelle je parlais du grand classique, mais je pense qu'il n'a pas mauvais goût cet homme.
Après, ça peut être une cave, ça peut être le bord du lac, là, dans une forêt par exemple.
Oh, une classe d'école.
On en revient à notre invité Marc Woltenhauer. Dans cette première partie, on évoque bien évidemment la Suède, puisqu'il a des origines suédoises de par sa maman. Et puis, j'aimerais qu'on évoque un petit peu ce roman, L'Aigle de Sang, qui nous emmène justement dans cette île de Gotland, sans tout dévoiler pour les personnes qui ne l'auraient pas lu encore. Qu'est-ce qui vous a motivé de faire cette histoire à Gotland, justement ?
Ma motivation est liée en fait d'abord à mes lectures. Avant de commencer à écrire des romans policiers, j'ai lu énormément de polars, et principalement des romans scandinaves, des romans suédois. Il y a notamment deux séries de romans policiers qui se passent sur l'île de Gotland. Deux écrivaines, Mari Ljungstedt et Anna Jansson, que je lisais à chaque fois que j'allais en vacances là-bas. Et quand j'écrivais Le Dragon du Muvron, qui était mon premier polar, j'avais en tête le fait de me dire... Si tout d'un coup je continue à écrire, peut-être qu'un jour j'écris un roman qui se passe en Suède. Et la raison pour laquelle j'ai dit dans le premier livre que mon inspecteur Andreas Auer avait des origines suédoises, sans préciser quoi que ce soit de plus. C'était juste pour garder cette porte ouverte. Et après avoir fini mon deuxième livre, qui a tué Heidi, je sentais que c'était mûr pour aller jusqu'en Suède, mais j'étais face à une grosse question. C'est que si je voulais emmener mon inspecteur Auer en Suède, en tant qu'inspecteur de la police cantonale vaudoise, il n'avait rien à faire là-bas, au niveau professionnel. Donc l'idée qui m'est venue, c'est qu'il y avait un secret dans la vie d'Andreas. Sa sœur lui apprend qu'en fait, il a été adopté, mais que... Ils ne savent pas, ni sa sœur, ni ses parents, quelle est vraiment son histoire et son origine. Et du coup, il part à Gotland, tout seul, pour faire des recherches, pour essayer de retrouver la trace de son passé. Mais bien sûr, il va être confronté à quelque chose de terrible, et il va être mêlé aussi sur place à une enquête.
Je vous réserve une petite surprise, les garçons. Est-ce que vous voyez bien ?
Moi, je la vois bien.
Qui va commencer ? On va laisser le soin à Marc. Marc, allez-y, lisez-moi ça.
Un vert va vers un vert, en vert à l'envers.
Bravo, Stan.
Un vert va vers un vert, en vert à l'envers.
Un petit peu plus vite.
Un vert va vers un vert, en vert à l'envers.
Un vert va vers un vert, en vert à l'envers.
Je vous dis bravo les garçons.
Oh, il y a pire, on a des pires entraînements à la radio pour ces tongue twisters, comme on dit. Hein.
Exactement.
Alors, pour les auditrices et les auditeurs qui nous suivraient en live, on vous met l'image, puisque effectivement, quand on n'a pas le texte sous les yeux, ça peut paraître assez, comment on va dire, surréaliste, mais la phrase est juste, visiblement, très très juste. C'est une phrase qui illustre, qui est illustrée par une photo, puisqu'on voit effectivement un insecte qui est à côté d'un récipient
qui sert
à
consommer. Un verre.
Et tout est juste dans la phrase. Votre esprit est fort à propos.
Merci mon cher Stan.
L'aire de jeu continue de vous accompagner jusqu'à midi en compagnie de Claire et Stan, puisque Florian est parti peut-être rechercher un lieu idéal pour un crime. Pourquoi un crime ? Puisque nous recevons un auteur, un écrivain qui écrit des romans noirs. Il s'agit de Marc Woltenhauer qui nous accompagne dans cette aire de jeu sous la direction de Claire qui, elle, n'a pas changé. Rebonjour Claire.
Mais rebonjour Stan. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est la deuxième heure de l'aire de jeu. On est ravis de recevoir ce matin Marc Mark Boltenhauer. Et là, on va vraiment plonger dans votre univers avec Nicolas Feutz, hein, puisque vous avez écrit à quatre mains ce roman qui s'intitule Ultimatum et qui nous tient en haleine du début à la fin. Comment est née l'idée de cette collaboration avec Nicolas Feutz pour écrire ce polar ?
C'est une idée qui a mûri. Je dirais que ça remonte déjà à notre première rencontre. En 2016, c'était 3 mois après que soit sorti mon premier livre, Le Dragon du Muvran. Nicolas sortait en même temps Les Bouches et il m'a écrit un message voyant apparaître un nouvel intrus dans le monde du polar roman. Et on s'était donné rendez-vous, à Marin d'ailleurs, pour boire un café. Où, non, on était à La Tène, donc on n'était pas très loin. Nicolas habitait à Neuchâtel. À l'époque, j'habitais dans le Vuilly, à Sugier. Puis ce café devait durer une demi-heure et je pense qu'on est resté 3 heures ensemble. Et déjà là, on avait pris une première décision qui était de se rencontrer nos deux protagonistes de l'époque, qui pour moi était déjà Andrea Sauer, et chez Nicolas c'était Mike Denner. Donc dans le livre suivant qu'on a écrit, Moi qui a tué Heidi, chez lui Noto, Les Noces de sang, ces deux protagonistes se rencontrent dans un chapitre à la Blécherette. Et ça a beaucoup plu aux lecteurs qui n'ont eu de cesse de nous demander depuis « quand est-ce que vous allez écrire ensemble ?» Et on répondait toujours « non, on va pas le faire » parce que voilà, on sentait pas vraiment le truc, on a l'impression que c'était difficile. Et finalement, en automne 2023, on commençait notre tournée habituelle avant les fêtes, où on fait 50, 60 dédicaces en 2 mois. On a toujours beaucoup de temps ensemble de discuter. On s'est dit, tiens, si on commençait à réfléchir à une idée d'intrigue, sans vraiment se projeter, mais dans les fêtes, juste avant Noël, on avait un scénario qui était écrit, détaillé, et on n'avait plus qu'une envie, c'était de l'écrire. Et c'est comme ça que ça a démarré.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de l'intrigue d'Ultimatum ?
Ça commence au marché de Noël à Montreux, où une femme est poursuivie par des Pères Noël. Elle va finir égorgée dans le parking. Et du coup, ça va lancer une enquête où ces deux protagonistes, mon inspecteur Andrea Sauer et Norbert Jemsen, vont être amenés à collaborer. Et au moment de leur première rencontre, qui se passe au CHUV, à l'hôpital, puisqu'Andrea sort d'opération, il y a la télévision qui est allumée et tout d'un coup, l'écran s'éteint. On voit le palais fédéral illuminé qui devient tout noir et il y a un décompte 5, 4, 3, 2, 1 qui s'affiche avec le mot ultimatum.
Quels sont les thèmes principaux qui sont abordés dans ce roman ?
On touche au pouvoir. Il y aura des scènes aussi à Berne, au palais fédéral. Et il y a vraiment une thématique qui est liée, je dirais, aux influences croisées des mondes politiques, économiques et militaires, qui est aussi un thème assez actuel.
Oui, c'est vrai qu'il est vraiment sorti à une date où vous ne pouvez pas mieux tomber. Ce n'était pas voulu, parce que le livre, vous l'avez écrit bien avant. Hein, alors donc,
Oui, on l'a écrit bien avant. D'ailleurs, on se posait la question quand on l'a écrit, en disant, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté où on va trop loin pour cette petite Suisse toute calme, où il ne se passe jamais grand-chose ? C'est peut-être un scénario qui aurait plus sa place aux États-Unis. Mais de fait, on se rend compte que la réalité rattrape des fois la fiction. Il y a même juste un exemple dans notre livre. On parle aussi de mercenaires suisses qui ont été combattre en Ukraine. Puis je crois qu'il y a 3 semaines, il y a un article où un mercenaire suisse est décédé en Ukraine. Voilà, il y a pas mal d'éléments d'actualité quand même qui...
Et pourquoi vous avez choisi le palais fédéral à Berne comme cible par les terroristes ?
Au tout début, quand on a commencé à réfléchir à cette intrigue, on avait une envie qui était de donner une dimension nationale à notre roman. On s'est rendu compte que dans les romans policiers suisses romans notamment, il y avait très peu ou pas d'intrigues qui touchent à un niveau national. On est souvent dans une ville, dans une région, mais pas au niveau national. Et dans nos références communes, on a bien sûr vu des séries, notamment danoises, comme Borgen ou The Killing, où il y a justement ce jeu d'influence entre les milieux politiques, économiques, militaires. Et du coup, c'était une envie qu'on avait, c'était de donner cette dimension-là à notre roman.
Envie de prendre l'air jusqu'à midi. C'est l'air de jeu.
L'air de jeu qui a l'honneur et le privilège d'avoir Mark Boltenhauer, écrivain de romans policiers, qui vient notamment de sortir un livre qu'il a écrit à quatre mains avec Nicolas Feutz. On en parle avec lui et surtout avec Claire.
Et nous avons un candidat, c'est Neven. Bonjour Neven, comment allez-vous ?
Bonjour, ça va bien.
Vous allez jouer pour un bon d'une valeur de 50 francs, une jolie carte cadeau. Ça sera il faudrait éteindre la radio parce que ou la mettre moins fort parce que
oui, ça sera bon, peu... éteindre la radio.
Alors, c'est au centre Santé La Fabrique à Champagne et vous allez pouvoir bénéficier d'une séance découverte pour deux personnes de la cryothérapie. Oui. Alors, oui. Est-ce que vous aimez le froid, vous ?
Oui.
Marc, j'imagine qu'en Suède aussi, il fait assez froid hein, quand même en hiver, comme un peu partout, ou bien enfin, comme chez nous.
Alors, on a l'impression qu'il fait froid dans le nord, mais notamment sur l'île de Gotland, l'été, on est en moyenne à 25 degrés. C'est très agréable.
Ouais,
c'est agréable. Grosse chaleur du sud. Néanmoins, même sur l'île de Gotland, ça fait quelques années qu'ils ont commencé à planter des vignes, donc c'est aussi le signe que ça se réchauffe. Hein.
L'air de jeu, question surprise.
Alors, si vous avez tout écouté ce qu'on a dit au cours de cette matinée, à mon avis, ça doit être jouable pour vous. Vous avez un chrono de 37 secondes, alors il faut être assez rapide. Dites-moi quand vous êtes prêt et on lance le chrono. Vous êtes prêt ?
Oui.
C'est parti, top. Comment s'appelle l'inspecteur qui est le personnage principal des romans d'André, de notre invité Marc Woltenhauer ?
Je passe.
Dans Ultimatum, le dernier livre qu'il a écrit avec Nicolas Feutz, quel bâtiment est pris pour cible par des terroristes ?
Berne.
Quel bâtiment ? Sur quelle île suédoise se déroule l'histoire de son roman L'Aigle de sang ?
L'Islande.
Ah, vous allez avoir des regrets. J'ai presque donné la réponse. Alors, l'inspecteur qui est le personnage central des romans de notre invité Marc Woltenhauer, c'est Andreas Auer. C'est le palais fédéral qui est visé, hein, le bâtiment, et oui, évidemment, c'est à Berne, mais c'est le palais fédéral qui est visé dans l'ultimatum. Et puis, il vient de le dire, hein, l'histoire de son roman, L'Aigle de sang, eh bien, c'est à Gotland. Dommage, mais merci d'avoir joué avec nous, Neven. On vous dit à une prochaine fois. Merci.
Belle journée, Neven.
Au revoir.
Au revoir.
Bonne
journée,
au revoir.
10h, midi. Envie de prendre l'air. L'air de jeu.
Air de jeu qui vous emmène quelque part entre la Suisse, la Berne fédérale, la Suède, mais pas que, puisque nous avons l'honneur et la chance d'avoir l'auteur Marc Woltenhauer qui nous présente son nouveau livre en compagnie de Claire.
On va bien évidemment évoquer l'écriture de ce nouveau polar. Alors, comment vous vous êtes réparti le travail ? Est-ce que vous avez pris ce qui était plutôt un peu militaire, et puis Nicolas, ce qui était un petit peu de la justice, et puis est-ce que vous avez écrit chacun un chapitre ? Parce que j'ai trouvé qu'on n'arrivait pas à se dire, oui, ça c'est Nicolas, ça c'est Marc, mais dans l'ensemble, c'est quand même assez difficile de vous différencier.
Alors, c'est vrai qu'on a essayé de faire en sorte que le style soit le plus homogène possible. D'ailleurs, on a chacun retravaillé ce que l'autre a écrit à plusieurs reprises. Donc, il y a un peu notre patte dans tout le livre, finalement. Et c'était assez marrant, parce que même des gens proches de nous qui ont lu en avant-première le livre se sont trompés en disant « Ah, mais ça, je suis sûr que c'est Nicolas, mm-hmm. En fait, c'était Marc. » Puis, une petite anecdote amusante, le livre sort aussi en allemand, mardi prochain. Comme je parle allemand, j'ai pu relire le texte allemand. Et à un moment donné, il y a un passage où la traductrice n'était pas sûre. Et puis moi, je me dis, mais en fait, c'est bizarre, cette phrase. Alors, j'écris un message à Nicolas. Puis je lui dis, mais est-ce que tu pourrais me dire ce que tu voulais exactement dire, etc. Et puis il me répond, mais en fait, c'est toi qui as écrit.
Ah, d'accord.
Okay, là, il y a même des passages, on n'est plus tout à fait sûr de qui les a écrits. Mais pour répondre à votre question, on a imaginé ensemble le scénario. Donc, on était là physiquement ensemble, où on a lancé une idée, l'autre a rebondi, c'était vraiment très très dynamique, puis on est assez rapidement arrivé à imaginer un scénario. Et puis après, on s'est posé la question, mais comment on fait maintenant ? Et au lieu de choisir une voie, je dirais, logique, en disant chacun fait un chapitre, etc., on s'est répartis un peu par envie, en disant « Ah, mais celui-là, j'aimerais bien l'écrire », ou alors, moi je disais à Nicolas, je pense que ce chapitre-là, c'est pas mal pour toi. Logiquement, il y a deux chapitres qui se passent pendant un procès à Lausanne, à Montbenon, c'était naturel que Nicolas les écrive, mais il n'y a pas forcément de logique, il y a même certaines scènes, je dirais, c'est pas un livre qui est très très trash ou très violent, il y a deux, trois scènes qui sont quand même assez dures. Nicolas est plutôt connu pour faire des romans plus noirs que les miens. En fait, en l'occurrence, c'est moi qui les ai écrits. Donc, c'est pas si évident que ça, je crois, de trouver qui a écrit quoi.
Alors, moi, ce qui m'a fait aussi sourire dans ce livre, c'est que vous faites référence aussi à Blanche-Neige et les Sept Nains dans un polar. Je trouve que c'était bien cherché, ça. Alors, on l'a dit, hein, ça vise le palais fédéral à Berne. Est-ce que vous avez dû demander des autorisations spécifiques auprès des hautes sphères?
Non, pas du tout. On est dans la fiction. Tous les personnages qui interviennent dans le livre, c'est des noms fictifs. Donc, on ne fait pas de référence à des personnages existants. Donc, on a toute la liberté d'écrire finalement ce qu'on veut.
Alors, on a vu une photo hein, où vous êtes avec Nicolas Feutz au Palais fédéral. Est-ce que vous avez pu vous approcher de certaines personnes qui sont justement au cœur de ce roman?
Alors, s'approcher, oui, mais on n'a pas spécifiquement parlé avec ni des conseillers fédéraux, ni des personnages, ni des parlementaires. Par contre, on s'est renseigné notamment sur certains aspects liés à la police fédérale. Du coup, dans nos romans respectifs, on était plutôt ancré soit à Neuchâtel, soit à Lausanne, mais on avait très peu intégré la police fédérale. Donc là, on a pu se renseigner un peu plus précisément.
Oui, parce que j'imagine que vous avez dû effectuer des recherches quand même spécifiques, notamment sur les aspects militaires et politiques.
Tout à fait, oui. Alors, on a quelques personnes ressources autour de nous à qui on a pu poser des questions. Mais ce n'est pas un des livres qui nous a demandé le plus, je dirais, de recherche. On avait déjà pas mal de cartes en main pour l'écrire.
Fort de DI, pourquoi cet endroit-là?
Forcément, quand on imaginait le scénario, on cherchait après des endroits où situer un certain nombre de scènes. Et en l'occurrence, le fort de Dailly, qui se situe sur la commune de Lavey. Donc on est dans un fort militaire, tout proche de Saint-Maurice, dans la montagne. Et c'est un lieu que j'avais déjà visité lorsque j'écrivais, avec mon compagnon Benjamin, le guide sur les 111 lieux des Alpes vaudoises. Et ce fort de Dailly fait partie de ces 111 lieux qu'on a choisis. Et je me suis dit, ah mais en fait c'est un endroit super qui pourrait servir finalement de lieu final dans le livre. J'en ai parlé à Nicolas et quelques jours plus tard, on avait fixé rendez-vous avec un ami, Pascal Bruchet, qui est le président de l'association qui s'occupe maintenant de ce lieu qui commence à être ouvert au public. Et puis on a été le visiter, je crois que c'était le 31 décembre 2023. Et c'était super sympa, on a mangé une fondue au cœur de la forteresse, mais surtout on a glané quelques idées.
10h, midi, envie de prendre l'air. L'air de jeu.
L'air de jeu en plein polar avec Claire comme maîtresse de cérémonie, mais surtout son invité Marc Woltenhauer, qui a sorti plusieurs livres et qui vient nous présenter le dernier plus en détail. Et on plonge avec lui à la fois entre la Suisse et la Suède.
Et oui, ce roman, ce polar hein, écrit à quatre mains, eh bien, nous emmène du côté de la Berne fédérale et on part aussi du côté de Fort Dailly. Alors, on l'a vu, vous nous l'avez expliqué. Et alors, à l'intérieur, il y a des photos qui ont été prises à l'intérieur. Qu'est-ce que vous avez découvert?
Alors, le fort de Dailly fait partie de ce qu'on appelle le réduit national. Donc, c'est toutes ces forteresses dans les montagnes qui ont été construites après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vraiment impressionnant parce qu'il y a des kilomètres et des kilomètres de galeries souterraines. D'ailleurs, depuis Lavey, il y a d'abord le fort de Savatan, qui est aujourd'hui l'académie de police. Mm-hmm. Depuis ce fort-là, il y a un funiculaire qui monte jusqu'à Dailly. Et il y a notamment deux complexes dans la montagne où il y a à chaque fois un canon avec un ascenseur à munitions qui fait 50 mètres de haut. Donc, il monte les munitions jusqu'au canon. Et puis, depuis là, on peut tirer jusqu'au fin fond du Valais ou de l'autre côté jusqu'au lac Léman. Et on a l'impression d'être en pleine guerre froide parce que c'est tout des instruments de contrôle qu'on voit, par exemple, dans les vieux films de James Bond. C'est assez extraordinaire.
Oui, donc ça sert de décor pour la fin de Ultimatum. Et puis, alors, dedans, qu'est-ce qu'on peut voir? Est-ce qu'il y a encore des choses de l'armée?
Oui, alors récemment, il y a un groupe de personnes et une association qui ont repris la gestion d'un de ces complexes où il y a le canon T2, qui l'ont transformé au musée. Donc on peut aller sur leur site qui s'appelle la CIPAD, C-I-P-A-D. On peut s'inscrire pour des visites, ça vaut vraiment la peine. Et ils ont remis un peu au jour avec tous les lieux où ils dorment, la cantine, il y a des différents instruments de communication de cette époque, ils en ont fait un musée, et c'est vraiment intéressant.
Oui, c'est instructif aussi, ouais. Et puis ça nous plonge dans les fins fonds de la Terre. Comment vous avez réussi à rendre l'histoire d'Ultimatum aussi réaliste et ancrée dans l'actualité suisse?
Alors ça, on ne l'a pas fait exprès, c'est la réalité qui rattrape un peu la fiction. Mais on cherche bien sûr, quand on imagine une histoire, à s'ancrer dans le pays, dans l'histoire, dans l'actualité. Donc, on a un petit peu sondé. C'est clair que il y a aussi une thématique sur les menaces terroristes qui planent sur la Suisse. Alors, on a plutôt l'habitude d'entendre des faits terroristes qui se passent dans nos pays voisins. On a de la chance pour l'instant de pas être touché de plein fouet, mais on a régulièrement vu aussi des articles où la sécurité intérieure du pays est quand même très attentive à tout ce qui se passe, et puis on n'est quand même pas à l'abri de ce genre de situation.
Oui, il faut faire vraiment très attention. Alors, quelles sont les satisfactions que vous avez eues avec Nicolas Fuetz quand est sorti ce livre? Il est sorti jeudi passé, hein, le 27.
Jeudi passé, oui. C'est vrai que le temps a filé à une vitesse, parce qu'on a fini de l'écrire, je crois que c'était au mois de fin mars l'année passée. Et puis, comme je l'ai dit en début d'émission, on était déjà super impatients d'écrire ce livre quand on avait finalisé notre scénario. On était super impatients qu'il sorte, parce que voilà, c'était quelque chose de nouveau pour nous. On en venait presque à oublier qu'avant la sortie du Climatum, on avait nos sorties respectives, Les Extradés pour Nicolas et Fatal Abîme pour moi au mois d'octobre. On se projetait déjà à vivre cette sortie d'Ultimatum. Et puis voilà, là on y est. On a commencé à faire les dédicaces un peu partout. Notamment, on était hier à la Chaux-de-Fonds à Neuchâtel. Et puis l'accueil était incroyable. Il y avait à la Chaux-de-Fonds une file qui faisait tout le tour du magasin, des gens enthousiastes. Et ça fait très plaisir.
En tout cas, moi, je verrais bien un film sur ce livre-là. Il serait vraiment génial. Marc, vous allez vous dirigez vers Stan maintenant pour choisir la photo du défi.
10h, midi, envie de prendre l'air, l'air de jeu.
En compagnie de Marc Woltenhauer qui sort un polar à quatre mains, on peut le dire comme ça, Claire, puisque c'est un livre qui n'a pas été écrit que par lui, mais en collaboration. Incroyable.
Avec Nicolas Fuetz. Et puis, le choix était difficile. Hein. On vous remercie pour toutes les photos que vous nous avez envoyées. Et puis, Marc a fait son choix. Et les photos, je vous rassure, vous les découvrirez cet après-midi sur notre galerie photo, ainsi que toutes les photos que nous a fait parvenir Marc Woltenhauer. Et nous avons avec nous Mélanie de la Chaux-de-Fonds. Bonjour Mélanie, comment allez-vous?
Bonjour, bien, merci, et vous?
Mais très bien, vous pouvez nous décrire votre photo?
Alors, c'est un site près d'Yverdon, avec des menhirs, et c'est un lieu un petit peu mystique comme ça, et ça m'évoquait justement les romans de votre invité.
Est-ce que vous avez déjà lu du Marc Woltenhauer?
Oui.
Lequel?
Presque tous, je crois.
D'accord.
Ah, une fan.
Une fan, ouais. Et oui. Ultimatum, vous l'avez déjà lu?
Non, pas encore, malheureusement.
Mais vous verrez, il est vraiment génial. Alors Marc, dites-nous pourquoi vous avez choisi cette photo-là.
Alors effectivement, pour ce côté mystérieux, et puis je trouvais que le clin d'œil à l'aigle de sang dont on a parlé en début d'émission était assez sympa, puisque sur l'île de Gotland, il y a aussi plein de sites avec des menhirs qui datent de l'époque des Vikings, voire des sites encore plus anciens. Et notamment, il y a des menhirs qui sont placés en forme de bateaux vikings. Il y en a plusieurs sur l'île, et puis ça m'a fait penser à ça, et je me dis, bah tiens, tout ce qui est mystérieux, où il y a des légendes, peut-être on peut facilement imaginer ça comme scène de crime, et puis plonger dans un univers assez fascinant.
Alors donc, la photo de Mélanie pourrait peut-être vous inspirer pour un prochain roman?
On sait jamais.
On sait jamais, restez à l'écoute, et puis suivez l'actualité de Marc Woltenhauer. En tout cas, merci d'avoir participé à notre défi photo. On vous souhaite une bien belle journée.
Merci à vous.
Merci Mélanie, au revoir. Et puis, ben voilà, on a été vraiment ravis d'accueillir ce matin Marc Woltenhauer. On va parler maintenant, alors voilà, l'actualité c'est Ultimatum avec plein de séances de dédicaces. Mais est-ce que vous pouvez nous parler de vos futurs projets? Et puis, est-ce qu'il serait envisageable une suite avec Nicolas Feuth pour Ultimatum? Est-ce que vous y avez songé?
Alors, au niveau des prochaines sorties prévues, nous en avons deux frissons. Nicolas sortira au mois d'août Black Justice numéro 5. Ce sera à l'occasion aussi du festival Le Livre sur les quais à Morges. Et moi-même, avec mon compagnon Benjamin, on a écrit un deuxième frisson, une nouvelle série qui va s'appeler Les Gardiens de la Sainte-Lance. Donc tout ça au mois d'août. Après, il y aura encore d'autres surprises cet automne. Et avec Nicolas, on a effectivement songé à une suite. Parce qu'on a eu tellement de plaisir à coécrire qu'on s'est dit que ce serait dommage de s'arrêter là. D'ailleurs, on a plein d'idées. Alors, ce ne sera pas pour tout de suite. Il faudra être un peu patient parce qu'on a aussi nos projets individuels sur lesquels on va avancer. Mais il y aura en tout cas un deuxième, peut-être même un troisième. On a déjà évoqué une trilogie.
Mais c'est vrai que pour les personnes qui aiment autant Marc Woltenhauer que Nicolas Feuth, les avoir les deux dans un livre, c'est génial. Et puis un autre projet, est-ce qu'on peut en parler avec votre compagnon?
Alors ça, peut-être qu'on gardera la surprise pour cet automne.
D'accord, on n'en saura pas plus, mais ça reste un peu dans le domaine du polar, on peut le dire.
Oui, on ne s'éloigne jamais beaucoup du polar, effectivement.
En tout cas, moi, ce que je vous propose, Marc Woltenhauer, c'est de venir avec votre compagnon quand ce livre sortira, pour pouvoir en parler avec lui également. Et puis, dernière petite question, les invités prennent toujours des petits objets avec eux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez pris?
Alors, quand j'ai dû chercher des objets chez moi, en fait, j'ai réalisé qu'on n'avait pas beaucoup d'objets.
Tu dis la Suède, on va avoir quelque chose de suédois.
Il y a quelques tableaux, mais c'était un peu encombrant à prendre.
Oui, le poil suédois aussi. Hein.
Alors, j'en ai pris trois qui sont un peu symboliques. Le premier, c'est une plume Mont Blanc que je me suis offerte, je crois, la semaine ou je crois même quelques jours avant que sorte mon premier livre, Le Dragon du Muvran. J'avais envie de me faire ce plaisir en disant, bah tiens, je vais dédicacer mes livres avec cette plume.
Wow.
En fait, elle m'accompagne depuis la sortie du Dragon du Muvran et je dédicace tous mes livres avec cette plume Mont Blanc.
Waouh, magnifique.
Est-ce qu'elle a été fabriquée au Loc, vous savez, ou pas?
Alors ça, je ne saurais vous dire.
Parce que je crois qu'il y a une usine.
Bien sûr, bien sûr, j'ai une connaissance, une amie qui y travaille. Et puis...
Le deuxième objet, en fait, c'est une toute petite boy à lait que j'ai trouvé sur une étagère. Et je l'ai pris pour évoquer mon deuxième livre, Qui a tué Heidi, puisqu'on est dans ce monde agricole. Le livre commence avec une histoire de conflit entre deux paysans. Il y a le décès d'une vache, etc. Donc c'était pour illustrer ça. Puis en même temps, c'était l'occasion de vous laisser quelques chocolats, puisqu'elle est pleine de chocolat.
Que
vous partagerez avec Stan, bien sûr.
Ah, mais alors on va vous redonner la petite bouillie à lait quand même.
Non, c'est un souvenir.
Ah, mais c'est trop sympa.
Merci mille fois.
Et puis une balle.
Oui, une balle.
Mais pas une balle pour faire du foot. Hein.
Une balle, parce que ça, c'est une anecdote que j'aime beaucoup. C'est aussi en lien avec Qui a tué Heidi. Quand il est sorti, il y a un officier de la police cantonale vaudoise qui m'a écrit, qui travaillait à ce moment-là à l'école de police à Savatan. Il m'a dit, j'ai adoré votre livre, c'est super. En plus, j'ai vu que vous aviez pris conseil auprès de certains inspecteurs de police, etc. Mais je voulais juste vous signaler un élément, un détail. Je suis passionné d'armes à feu et dans votre livre, vous parlez d'une simulation de suicide. Un espion russe, un tueur à gages russe qui simule un suicide dans un hôtel à Villars. Et il me dit, je pense que vous vous êtes trompé de calibre. Parce que si vraiment c'était le calibre, il n'aurait plus de tête. Et finalement, alors effectivement, j'avais utilisé le numéro de l'arme plutôt que le calibre. Alors du coup, il m'a dit, venez une fois à Savatan et je vais tout vous expliquer, comme ça vous ne ferez plus jamais d'erreur. Et il avait prévu au stand de tir toute une table avec une vingtaine d'armes à feu. J'ai pas fait l'armée, j'avais jamais tiré, et du coup j'ai eu l'occasion de découvrir un univers que je ne connaissais pas. À cette occasion-là, j'ai aussi été invité par le commandant de l'école à faire un discours au lever du drapeau le matin devant tous les aspirants de police, un événement assez incroyable. Voilà.
En tout cas, merci infiniment, Marc Wolstenhauer, pour ce joli moment de partage. Et puis, ben, ultimatum, donc, dans toutes les bonnes librairies. Et puis, ben, on se réjouit déjà de vous retrouver pour une prochaine, un prochain point sur l'un de vos polars.
Avec grand plaisir. Merci, Claire.
Merci beaucoup.
Merci de nous avoir fait voyager. Et on vous dit à très bientôt, peut-être.